100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, c'est le premier camp de réfugiés installé sur le sol français, le camp de la Linière à Grande-Synthe, près de Dunkerque, au nord du pays. Près de 1300 personnes y vivent depuis début mars. Ils étaient auparavant dans un camp sauvage de la commune. C'est à la demande du maire que Médecins Sans Frontières a bâti ce camp contre l'avis de l'État. La construction prise en charge en grande partie par l'ONG a coûté plus de 3 millions d'euros pour un coût d'entretien annuel de 3 à 4 millions d'euros. Coût conséquent alors même qu'une grande partie du fonctionnement de ce camp repose sur le travail de bénévoles. Le reportage à Grande-Synthe de Guilhem Delteil.
Le jour se lève, les habitants du camp dorment encore, mais les bénévoles, comme Lotta, fraîchement arrivée d'Amsterdam, sont déjà à pied d'œuvre.
Nous nettoyons le camp, mais c'est un peu bizarre car nous trouvons beaucoup de sacs avec des couvertures et des vêtements dedans, et nous ne savons pas quoi en faire. Il y a aussi des sacs avec des habits, des oignons, des pizzas et du poisson à l'intérieur. Donc eux, on les jette. Mais ceux-là, on les met de côté et on va demander ce qu'on doit en faire.
Lotta est venue avec quatre amis à Grande-Synthe, un groupe constitué autour de Niki qui, deux semaines plus tôt, s'est rendu à Lesbos, porte d'entrée grecque au sein de l'Union européenne pour des dizaines de milliers de migrants. Riche de cette première expérience, cette jeune photographe néerlandaise a voulu à nouveau offrir de son temps une obligation morale pour elle.
C'est l'histoire, vous savez, les gens ont besoin de nous. Je pense que nous pouvons apporter un changement en discutant avec les gens, en riant avec eux, en jouant. Oui, simplement en discutant, on peut rendre leur vie un peu meilleure.
Comme ces quatre amis néerlandaises, ils sont plusieurs dizaines à travailler bénévolement dans le camp de la Linière. Entre 30 et 40 en semaine, près de 70 le week-end. Des bénévoles venus de la région, de pays proches ou parfois de plus loin, le plus souvent pour quelques jours. Des bonnes volontés qu'il faut encadrer. Et c'est l'association Utopia 56 qui est chargée de coordonner le travail de tous ceux qui interviennent dans le camp. Magali Bourgoin en est la coordinatrice générale.
On fait un briefing à 8 heures. Ensuite, on a nos chefs d'équipe qui demandent deux personnes pour tel poste. Trois personnes pour la sécurité en fond de camp, un nombre défini de personnes tous les matins en fonction des missions, parce qu'il y a des missions ponctuelles et des missions qui sont là tous les jours. C'est pas une mission toute la journée, on essaye de faire tourner nos équipes toutes les deux heures. Donc nos chefs d'équipe, ils font la course dans le camp pour faire tourner les équipes.
Une fois le ramassage des ordures terminé, Niki se dirige vers l'école du camp. Une installation de fortune, deux tentes installées entre les abris en bois, quelques tables, des chaises. La responsable des lieux, c'est Jenny Paris de l'organisation britannique Education Aid. C'est à elle que Niki s'adresse.
Comment puis-je vous aider? Peut-être lire des histoires aux enfants? Mon français est très mauvais, mais mon anglais est correct.
Oui, ton anglais est très bon, bien meilleur que mon français.
Donc oui, peut-être que je peux vous aider.
Absolument.
Je peux peut-être aussi aller chercher les enfants, leur demander s'ils veulent venir à l'école.
Oui, les encourager, ça les met au moins à l'abri pendant la journée lorsqu'il y a beaucoup de voitures qui circulent.
Il fait encore frais ce jour-là, mais le soleil est présent. L'exiguïté des tentes pousse l'équipe à installer des espaces d'apprentissage en plein air. Georgia, une institutrice anglaise installée à Paris, est en train de préparer le matériel pédagogique pour la journée.
Moi, j'ai pris des vacances. J'ai déjà envoyé un email à Ginny, à Education Aid. Comme ça, elle m'a dit qu'elle a besoin d'enseignants bénévoles. Et donc j'ai dit, ouais, je peux faire que pour 5 jours, c'est la première fois, mais je veux bien revenir si ça se passe bien toute la semaine.
Parmi les bénévoles, certains, comme Georgia, viennent avec des compétences spécifiques. C'est également le cas de Hannah. Cette architecte belge s'est spécialisée sur les bidonvilles.
J'ai travaillé sur de l'habitat informel comme ici en Ouganda et au Kenya. Mais bien plus près de chez moi, les gens ont les mêmes conditions de vie que dans les bidonvilles de Nairobi, par exemple. Il m'a semblé qu'il était de mon devoir de venir et de regarder si je pouvais faire quoi que ce soit d'utile pour les gens qui vivent ici.
The people living here.
Debout sur un escabeau, Hannah assemble deux poutres en bois. Ce que les habitants du camp lui ont demandé, c'est d'améliorer les cabanes dans lesquelles ils vivent.
Les abris font à peu près 4 mètres sur 2 mètres et demi. Et il y a 4 ou 5 personnes qui vivent dedans avec leurs affaires personnelles. Ce sont de très petits abris, donc, mais nous essayons d'agrandir un peu leur espace de vie en construisant une extension devant leur maison. Elle fait 1 mètre et demi sur 2 mètres et demi.
Hannah, aidée de Manu, un étudiant espagnol, a déjà construit des extensions pour des cabanes abritant des familles. La voici désormais à l'œuvre dans la partie du camp occupée par les célibataires. Mais si le duo n'en est pas à sa première construction, Manu regrette qu'il n'y ait pas plus d'encadrement.
C'est bien qu'il y ait de la bonne volonté, mais nous, les bénévoles, nous ne sommes pas des experts. Donc on perd beaucoup de temps et on gâche des matériaux alors qu'on croit bien faire. Mais sans connaissance et sans consigne, c'est très difficile.
Et Manu de pointer également un autre frein à son travail. Poutres, planches de bois et même vis viennent à manquer. S'il faut un savoir-faire, des matériaux et de la bonne volonté pour construire ces extensions, lui estime ne disposer que d'un seul de ces éléments, le dernier.
Le reportage de Guilhem Delteil. Au Royaume-Uni maintenant, nombreux sont les bénévoles qui se mobilisent pour venir en aide à ces réfugiés. Parmi eux, Richard Enandel, avocat à la retraite, vivant à Bristol, dans le sud-ouest du Royaume. Il consacre l'essentiel de son temps à l'association Calais Refugee Solidarity Bristol. Dominique Bayard l'a rencontré.
C'est incroyable comme les habitants de Bristol ont été généreux. Ils ont donné beaucoup d'argent, des tas de vêtements, de la nourriture, des tentes. La toute première fois que nous sommes allés à Calais, nous avions 30 tonnes de dons dans deux camions. Et ça continue, certains habitants se sont portés volontaires pour aller à Calais et travailler avec les autres bénévoles sur place pour aider les réfugiés. Notre groupe Facebook, il compte 6000 personnes et parmi elles, il y en a 40 jusqu'à 60 qui sont vraiment actifs. Certains essayent de lever des fonds, d'autres récupèrent nourriture et vêtements et d'autres personnes comme moi essayent de trouver une solution légale et politique à ce problème.
Qu'est-ce que vous espérez pour les réfugiés ?
D'abord, nous devons continuer à répondre à la forte demande d'aide humanitaire car il y a énormément de monde dans ces deux camps. Mais surtout, il faut trouver une solution qui évite d'éparpiller les réfugiés autour de Calais. Les autorités françaises n'ont, semble-t-il, rien appris de l'histoire récente. Elles ont fermé Sangatte en 2002 et que s'est-il passé ensuite? Les réfugiés se sont éparpillés un peu partout. Et 14 ans plus tard, on se retrouve avec des camps encore plus grands. Aujourd'hui, il faut garder les camps en l'état et permettre au Haut Commissariat aux réfugiés d'y entrer pour évaluer la situation et recueillir des informations. Ce serait la meilleure chose à faire. L'autre priorité, c'est les enfants, en particulier à Calais. Il y a environ 450 mineurs isolés sur place. Parmi eux, 150 devraient être autorisés à rejoindre le Royaume-Uni car ils y ont de la famille. Malheureusement, Londres n'a encore rien fait, donc nous devons mettre la pression sur le gouvernement britannique pour permettre à ces enfants de traverser.
Richard Anandel de l'association Calais Refugee Solidarity Bristol.
We the people, we are the system. The 21st century will be the century of the common people, the century of you.
Le Premier ministre islandais n'aura attendu que quelques heures pour démissionner après les révélations des Panama Papers sur les bénéficiaires des paradis fiscaux. Malgré tout, la classe politique est toujours vertement critiquée par les Islandais qui veulent faire le ménage. Ces révélations pourraient bien renforcer encore l'influence du parti pirate. Il prône la démocratie directe, la semaine de 35 heures, l'assouplissement des lois sur les drogues et la refonte drastique du droit d'auteur. Un parti désormais en tête dans les intentions de vote avec 43% des voix, Antoine Lalanne.
L'application d'une nouvelle constitution rédigée par des citoyens tirés au sort, voilà l'un des objectifs du parti pirate en Islande. L'idée est née au lendemain de la crise financière de 2008. Confrontés à l'échec des politiques face au désastre économique, les Islandais ont alors soif de renouvellement. Et c'est dans ce contexte qu'émerge sur la scène politique ce fameux parti pirate islandais qui compte aujourd'hui 3 députés. Parmi eux, l'activiste Brigitta Jones-Dottir, qui siège depuis 2009 au Parlement, avec un discours inédit pour une députée.
Je suis arrivée au Parlement directement de la rue. Je n'avais aucune idée du fonctionnement des choses ici. On m'avait dit que le Parlement était une machine au profit des intérêts des compagnies privées, et c'est totalement vrai. Mais cette machine n'est pas si grande et il est facile de pirater le système.
La volonté de promouvoir une distribution plus équitable du pouvoir politique est une des raisons du succès des pirates dans l'opinion.
Les gens veulent avoir de l'influence, mais aujourd'hui, c'est difficile de leur permettre de faire passer des lois. Donc, pour le moment, c'est uniquement symbolique. Par exemple, je permets à des groupes ou des individus qui ont besoin de faire savoir quelque chose à un ministre de m'écrire, et ensuite, je produis une requête formelle. Dès lors, le ministère est au minimum obligé de répondre, car je suis parlementaire. Je suis donc un outil accessible à tous pour la transparence et ça marche bien. Je fais ça plusieurs fois par mois.
Le programme économique est lui beaucoup plus flou et évasif. Alors que si l'on en croit les sondages, les prochaines élections législatives devraient voir leur consécration. Sauf que le scrutin ne se déroulera que dans un an. Une éternité en politique.
En Allemagne, la sortie du nucléaire décidée au lendemain de l'accident de Fukushima jouit d'un large consensus, que ce soit au sein des partis politiques ou dans l'opinion publique. C'est loin d'être le cas chez les grands du secteur énergétique, car une centrale nucléaire en fonctionnement permet d'engendrer 1 million d'euros de bénéfices par jour. Les géants allemands du secteur considèrent donc la sortie du nucléaire comme une expropriation, sans compter le coût du démantèlement des centrales. C'est un reportage de Julien Méchaussier.
Nous sommes ici aujourd'hui pour défendre les intérêts de milliers de petits actionnaires. C'est leur économie, leur retraite qui sont en jeu. Nous voulons une sortie juste du nucléaire. Nous voulons être dédommagés pour réparer le préjudice qui nous a été imposé par une décision politique.
Devant les caméras des télévisions allemandes et à la sortie de la cour constitutionnelle de Karlsruhe, cet homme décidé et sûr de lui, c'est Johannes Thyssen, le président du groupe E.ON, l'un des trois géants du secteur de l'énergie qui ont porté plainte contre la sortie du nucléaire. En jeu, plusieurs milliards d'euros de dédommagement et un marathon juridique qui s'annonce très long. Dans les couloirs du Bundestag et entre deux réunions de la commission mise en place pour le financement de la sortie du nucléaire, Sylvia Kötting-Uhl s'entretient avec l'un de ses collaborateurs, député des Verts et porte-parole des questions nucléaires pour son parti. Elle ne peut cacher sa colère face au procédé de la filière du nucléaire.
Ils essaient de se faire passer pour Robin des Bois, mais en réalité ce sont eux les escrocs et personne d'autre. Ils ont profité de l'argent des contribuables pendant des décennies, que ce soit via les subventions reçues ou leurs clients qui ont déjà payé pour le démantèlement de centrales nucléaires et le stockage des déchets. Et aujourd'hui, ils essaient juste d'obtenir cet argent une deuxième fois.
Et de l'argent, ces grands groupes en auraient bien besoin. Aux côtés d'E.ON, RWE et Vattenfall n'en finissent plus d'afficher des comptes dans le rouge. Des pertes de plusieurs milliards d'euros qui vont jusqu'à mettre leur existence en danger. La faute, selon eux, au débranchement de leur centrale, une décision qui serait purement politique. Mais pour Harim Brunnengräber, politologue expert du tournant énergétique à l'Université libre de Berlin, cette plainte devant la Cour constitutionnelle pourrait bien cacher tout autre chose.
Peut-être que le nœud du problème, ce n'est pas l'argent, mais se mettre d'accord sur un arrangement. Le gros point d'interrogation reste le stockage définitif des déchets radioactifs. Nous n'avons pas encore trouvé de site pour ces déchets et la question du financement est toujours en suspens. Il existe de nombreux indices qui laissent à penser que la stratégie des exploitants du nucléaire est la suivante. Nous retirons nos plaintes à la seule condition de ne pas financer entièrement le stockage des déchets.
En d'autres termes, un chantage inacceptable pour Sylvia Kötting-Uhl.
Dès l'an 2000, l'Allemagne a fait le choix d'une sortie du nucléaire. C'était une volonté politique claire et ces entreprises auraient dû s'adapter. Elles ont réussi à faire plier le gouvernement qui est revenu sur cette sortie, puis est arrivé Fukushima en 2011. Et tous les partis au Bundestag ont soutenu cette décision. Il faut que ce soit bien clair, nous ne reviendrons jamais sur la sortie du nucléaire. Ces grands groupes sont juste pris de panique, ils se disent « Oh mon Dieu, nous ne pouvons plus gagner d'argent avec le nucléaire. »
Avec raison, selon l'expert Achim Brunnengräber, car la question du financement de la gestion des déchets nucléaires n'est toujours pas réglée. Malgré les 40 milliards d'euros mis mis de côté par E.ON, RWE et Vattenfall.
L'énergie nucléaire présente toujours un solde négatif. Si l'on compare les gains engendrés au coût du démantèlement des centrales et la gestion des déchets, vous ne pouvez qu'obtenir des pertes. Et à ce constat, il n'y a qu'une seule conclusion possible, les gains sont pour le privé, tandis que le public se retrouve avec les pertes sur les bras. En clair, c'est le contribuable qui passera à la caisse pour le stockage définitif des déchets.
Le dernier réacteur nucléaire allemand devrait cesser de fonctionner en 2022. Pour autant, à cette date, l'Allemagne sera encore loin d'avoir soldé l'héritage de son passé nucléaire.
Si les bagages font l'objet d'une surveillance particulièrement sévère dans les aéroports, ils arrivent aussi qu'ils s'y perdent. Et lorsqu'il est impossible de retrouver leurs propriétaires ou que ces derniers ne se manifestent pas, ils sont alors vendus aux enchères. Exemple au Royaume-Uni, à Tooting, au sud de Londres, Marie Billon.
En fin de soirée, l'aéroport d'Heathrow a des airs de vaisseau fantôme. Dans le grand hall destiné au retrait des bagages, les tapis continuent de tourner. Une valise solitaire semble lassée du tour de manège, comme des centaines d'autres bagages égarés chaque jour par les compagnies aériennes. La plupart du temps, le bien esselé retrouvera son heureux propriétaire, mais quand la compagnie ne parvient pas à l'identifier ou que le bagage n'est pas réclamé dans les 21 jours, il prend la direction de la maison aux enchères de Grisby's à Tooting. On est loin des dorures de Sotheby's, on se croirait plutôt dans un hangar à fripes. Chaque mardi, Grisby's vendrait 300 bagages perdus à Heathrow et les acheteurs sont des adeptes de la revente sur eBay. Ce sont des habitués. D'ailleurs, ils n'aiment pas les curieux qui, après avoir trop regardé des émissions dédiées à ce genre de vente aux enchères comme Baggage Battle, s'invitent en espérant découvrir un rubis dans le revers d'un sac de voyage. Ce sont eux qui font monter les prix artificiellement. Une valise pleine ne vaut jamais plus de 50 livres si on veut espérer faire un profit. D'ailleurs, tout objet de valeur est vendu séparément, le reste est laissé en l'état. Mais parfois, il y a la pépite, et pas forcément d'or, un snowboard quasi neuf valant plus de 700 euros, vendu à peine à 100 euros par exemple. Grisby's conserve 15% du profit de chaque vente, le reste revient directement à la compagnie aérienne.
En Croatie, se produire dans une chorale pro-LGBT, féministe et révolutionnaire, ce n'est pas vraiment une sinécure. Pourtant, depuis plus de 10 ans, les 15 filles qui composent Lesbor donnent de la voix pour défendre les droits de toutes les minorités, Simon Rico.
Lesbor, c'est d'abord un jeu de mots entre l'article français le et sbor, qui signifie cœur en serbo-croate. Justement, prononcé à la serbo-croate, ça donne Lesbor, qui veut dire lesbienne. Fondé en 2005, le groupe se présente comme le premier chœur lesbien de Croatie, mais en réalité c'est même le seul. Dans ce pays où l'église catholique est toujours très puissante, l'homosexualité reste tabou. Fin 2013, les deux tiers des Croates ont ainsi voté par référendum contre le mariage homosexuel. Et même si le Parlement a finalement voté une loi autorisant les unions civiles entre personnes de même sexe, les Gay Pride restent placés sous haute protection policière à cause des menaces constantes des groupes de hooligans d'extrême droite. Dans Lesbor, toutes les filles ne sont pas lesbiennes et la lutte pour les droits des LGBT n'est pas leur seul combat. Militantes féministes affirmées, elles chantent pour tous ceux qui sont marginalisés, tous ceux qui sont en lutte, qu'ils soient homo, travailleurs ou réfugiés. Avec la crise migratoire qui a secoué la Croatie tout au long de l'année 2015, elles ont d'ailleurs intégré une nouvelle chanson à leur répertoire, Clandestino de Manu Chao. Sinon, elles chantent surtout des chants religieux et révolutionnaires et des reprises de tubes balkaniques dont elles réécrivent les paroles. Leur titre le plus célèbre, c'est par exemple une adaptation pro-lesbienne d'un hit de Thompson, le Johnny Croate, connu pour son nationalisme forcené. Après plus d'une décennie d'existence, Lesbor s'est imposé comme l'une des références de la contre-culture balkanique et le groupe se produit régulièrement dans tous les pays de la région et même au-delà dans toute l'Europe.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette émission. À demain, dès 17h40 en universel.